France Musique. Open Jazz, Alex Dutille, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Yves Rousseau.
Bonsoir Alex.
Je suis heureux de vous voir entier pour nous présenter ces fragments, ça me rassure.
Et en bonne santé, oui.
Et en bonne santé, exactement. Il est 18h05 sur France Musique, on va écouter deux extraits de vos fragments, mais auparavant je voudrais signaler aux auditeurs qui seraient dans le Gers, ou pas proximité du Gers ce week-end, que j'ai des invitations pour l'Astrada à Marciac, cette magnifique salle avec cette acoustique très boisée. C'est samedi soir à 20h30 à l'Astrada de Marciac pour la chanteuse Sarah McCoy. Et donc, pour en bénéficier, d'ores et déjà, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Contactez-nous » sur la page Open Jazz sur francemusique.fr. Les deux premiers seront servis selon la formule consacrée. Yves Rousseau, je vois, en ouvrant votre disque fragment, une info qui m'étonne. Vous n'avez passé que 3 ans au lycée, c'est-à-dire que vous n'avez jamais redoublé.
Eh bien non.
Bon, mais alors bravo.
Non, c'est un scoop.
Bravo, c'est un scoop. Ouais. Parce que vous dites, ces fragments sont des réminiscences de mes 3 années passées au lycée, entre 76 et 79, lorsque je découvrais, sidéré, la musique de grands groupes alors à leur apogée, King Crimson, Pink Floyd, Soft Machine ou encore Genesis. Vous aviez pas encore repris le virus du jazz, mais c'est une fièvre qui a saisi d'autres musiciens, Franck Tortillet, Simon Goubert, etc. Vous êtes beaucoup à être marqué par cette époque-là de la pop anglaise, hein.
Ouais, je crois
et américaine.
Je crois qu'on est assez nombreux pour plein de raisons, mais à mon sens, pour une raison principale, c'est que le rock progressif de cette époque était une musique vraiment très inventive et ouverte sur l'improvisation. Et en cela, y avait une vraie filiation avec le jazz, très clairement. D'ailleurs, avant de venir vous voir, ces jours passés, j'ai réécouté des albums de Miles de cette époque. Et en fait, Beaches Brew, par exemple, on n'est pas loin. C'est un peu de la même famille. Voilà, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais c'est un raccourci. Mais on n'est pas loin.
On a été sur des esthétiques poreuses.
Exactement.
Et votre génération commençait à en finir avec le sectarisme des vieux croutons du jazz avec leur barbe, leur pipe et leur diplôme de pharmacien.
Alors ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que en fait mes parents étaient mélomanes et écoutaient toutes sortes de choses. Donc en fait, j'ai été élevé à la sauce Schubert, Chopin, mais aussi Django Reinhardt, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, de la chanson française. Et en fait, je suis arrivé comme interne au lycée que j'ai intégré en seconde. J'avais donc 15 ans, un peu plus de 15 ans, mais je découvrais totalement tous ces groupes. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Voilà, donc c'était effectivement la sidération, c'était le mot le mieux choisi, à mon sens.
Eh bien, on va voir comment le rock progressif a donné naissance à un jazz progressif. We'll be right back. Ça s'appelle Abyssal Écosystème. C'est l'une des compositions Yves Rousseau que vous avez inclus dans ces fragments, un hommage au rock progressif. Mais en fait, il y a un seul morceau de Robert Fripp dans le disque. Tout le reste est de votre plume. Donc c'était une façon de dire, je l'ai assumé. Voilà mes souvenirs, j'imagine.
Oui, c'est le filtre en fait. C'est les années qui ont passé sur ces années de lycée que j'ai saisi et que je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup influencé, mais beaucoup plus tard, j'ai vraiment mis du temps à m'en rendre compte. J'ai émotionnellement pris ça en pleine poire, si je puis m'exprimer ainsi, à l'époque, mais c'est après, quand j'ai commencé à écrire de la musique, beaucoup plus tard, j'avais 40 ans, où je me suis dit, mais en fait, c'est une période qui m'a vraiment durablement marqué, en fait.
Et vous avez réussi à retrouver, vous parliez de subtilité dans la musique pop et rock de cette époque-là, mais il y a beaucoup de subtilité, de timbre dans ce qu'on vient d'entendre, de polyrythmie aussi, des timbres acoustiques et électriques qui coexistent de façon très naturelle.
Oui, mais comme il y en avait à l'époque, parce que ces groupes que je cite, dont je suis pas un spécialiste, hein, mais King Crimson, même Pink Floyd dans un genre un peu différent, tous ces groupes, Genesis, Yes, utilisaient des métriques assez compliquées et qui, à l'écoute, paraissaient simples, avec des mélodies simples qui collait quoi, enfin qu'on retenait, avec en plus la beauté des voix, de tout ce qui concernait le groove. Et puis vous parlez du son, c'est aussi une époque qui a été extrêmement novatrice du point de vue de l'utilisation, par exemple, des sons de clavier, entre autres, hein, et pas que. Mais c'est une époque où des instruments qui venaient aussi du jazz sont entrés dans cet univers-là.
Le septet, on va y revenir tout à l'heure, que vous avez réuni, multigénérationnel, on les entend à nouveau dans Efficient Nostalgia, c'est la dernière partie de l'album. Thank you. C'est une composition qui se poursuit dans l'album, puisque ce n'est que la première partie de Efficient Nostalgia, dans les fragments d'Yves Rousseau. Alors on va venir au musicien qui vous accompagne, Yves. Vous êtes donc à la plume et à la contrebasse. Le batteur, c'est Vincent Tortillet. Le clavier, qui joue du Rhodes, du Moog et du Wurlitzer, c'est Étienne Manchon. Xaba Palotaï est à la guitare, Jean-Louis Pommier au trombone, Thomas Savy à la clarinette basse et Géraldine Laurent au sax alto. Et je constate, je le disais tout à l'heure, que c'est transgénérationnel, c'est-à-dire que on a, je sais pas si vous êtes le plus âgé dans l'orchestre, presque.
Alors,
pas tout à fait.
Alors non, exceptionnellement. Non, c'est Jean-Louis Pommier qui est un tout petit peu plus âgé que moi.
Et puis vous avez un Vincent Tortillet ou un Étienne Manchon qui sont de la toute jeune génération, qui n'ont pas connu ce rock progressif des années 70.
Non.
Ça les empêche pas d'adhérer au projet.
Non, déjà ils en ont écouté quand ils étaient jeunes. Alors là, je suis plutôt bien placé pour le savoir. Voilà, exactement. concernant Franck, évidemment, que je connais par cœur.
Franck Tortillet, bien
voilà,
sûr.
Voilà. Donc je sais que Vincent a baigné aussi là-dedans. Et puis c'est un musicien formidable en devenir, enfin qui va compter. Ouais.
Et alors pour arriver à cette osmose de son qu'on entend, il y a eu beaucoup de répétitions où le disque est la phase 1 de votre projet et c'est maintenant que vous allez beaucoup jouer.
Alors on est pour un certain nombre d'entre nous, on est l'époque a changé, je dirais.
Bah oui, parce que ça devait sortir au printemps, il faut le rappeler.
Oui, et puis alors bon, malheureusement, on va dire ça comme ça. Avant, on pouvait tourner un peu avant d'enregistrer les disques. Je suis encore de cette époque-là. Et puis ça a un petit peu changé. Maintenant, il faut enregistrer quand même assez rapidement pour faire vivre. Oui, voilà, c'est ça. Et pour faire vivre le projet économiquement, tout bêtement, c'est très, très trivial, mais c'est la réalité. Et puis sur scène, le faire évoluer. Donc on a effectivement répété, j'ai eu la chance d'être en résidence artistique, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, et donc j'ai eu un petit peu de temps pour monter ce répertoire. Oui. Mais je précise aussi que cet orchestre, c'est un véritable collectif, il n'y a rien qui me rend plus heureux que ça, c'est qu'on me dise que l'orchestre sonne, et ce sont des gens qui sont réellement au service du projet.
Et le fait qu'il y ait Jean-Louis Pommier, qui fait partie du collectif nantais, qui a donné naissance au label Yolk, explique que le disque soit sorti chez Yolk c'était votre idée de départ?
Alors au départ, pas du tout. Et puis au moment où on a parlé du disque, assez rapidement, j'en ai parlé à Jean-Louis, qui m'a dit, écoute, oui, il y aurait une certaine logique à ce que Yolk l'accueille. Il en a parlé à ses deux camarades, Sébastien Boisseau et Alban Darche, et qui ont été d'accord.
À trois, c'est facile d'avoir une majorité.
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Je vous propose d'écouter un autre contrebassiste, leader et compositeur, avec lui aussi un mix de générations, c'est Dave Holland, qui avait publié un album Seeds of Time, où on trouvait à la fois un jeune loup comme Steve Coleman et un vieux routier comme Julian Priester au trombone. Contrebasse, alto, trombone, c'est Marvin Smith & Smith qui est à la batterie, et puis pour que tout se passe bien, il y a Kenny Wheeler à la trompette. Il y a presque un trait d'humour sur la coda de Uren dans l'album Seeds of Time de Devoland, enregistré en novembre 84 pour le label ECM, avec Steve Coleman au saxophone alto, Kenny Wheeler à la trompette, Julian Priester au trombone et Marvin Smithy-Smith à la batterie. J'entendais, pendant qu'on écoutait, on se le disait, Yves Rousseau, une même idée de faire sonner les souffleurs ensemble, les cuivres et le saxophone, que vous, c'est, ça joue très ensemble. Sauf que là, on est dans une tradition où le solo a plus d'importance dans le jazz américain. Là où vous avez peut-être choisi de garder la cohésion de l'ensemble dans l'album.
Oui, il faut reconnaître que ce disque est assez écrit. Oui, c'est une évidence. Après, il y a évidemment quelques solos. Il y a aussi quelques moments improvisés collectivement, justement des soufflants. Mais oui, c'est vrai que ce disque est quand même écrit. Oui.
Mais ça se sent pas trop parce que quand on écoute, par exemple, le Abyssal Écosystème par lequel on a démarré, on a un mouvement perpétuel, on a un flux, la musique avance et on sent pas que quelques musiciens du sextet soient englués dans sa partition.
Ben écoutez, je vais le prendre pour un compliment pour l'orchestre.
Votre disque sort demain, oui. Fragment, oui. Chez Yolk. Il va y avoir des concerts.
Oui.
Hein, maintenant que ça redevient à peu près.
Si le virus veut bien nous laisser faire, oui.
Voilà.
Oui.
Et demain également, chez ECM, sort un album de l'un de vos collègues, un contrebassiste français, lui aussi, Michel Benita. C'est un disque en quartet avec Mathieu Michel au bugle, Joseph Dumoulin au clavier et Philippe Garcia pour la batterie et les samples. On va être à la fois dans l'acoustique et l'électrique. Thank you. Mathieu Michel pour le bugle, Joseph Dumoulin pour le Rhodes, Philippe Garcia pour la batterie et Michel Benita pour la contrebasse et la composition dans ce Looking at Sounds qui porte le titre de l'album qui sort demain, comme votre fragment, Yves Rousseau, vos fragments, puisque c'est au pluriel, son disque à lui sort chez ECM, le vôtre chez Yolk le même jour. Michel Benita, c'est quelqu'un que vous avez croisé forcément à de multiples reprises.
Oui, des centaines de fois. D'ailleurs, voilà. On s'envoie nos albums, là, d'ailleurs. On vient de le faire.
Très bonne idée. J'imagine que quand vous entendez Mathieu Michel, on précise qu'il est suisse, oui. Mais on l'a souvent vu dans des formations françaises, y compris dans une où vous avez pas mal donné, Archimusique.
Oui, absolument. Mathieu a été
fantastique.
Très libre, avec une grosse technique de trompette, mais qu'on n'entend pas. C'est toujours pareil. C'est un magnifique musicien, oui, qui a été trompettiste d'Archimusique pendant 2 ou 3 ans, oui, qui a fait au moins un disque avec nous. Oui.
Les fragments de Yves Rousseau sortis demain chez Yolk.
Open Jazz, France Musique.
Et puisqu'on parlait de trompettiste, Rolf Erichsen, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et si vous me dites non, je vous en veux pas, mon cher.
Eh bien non, mais à chaque fois que je viens ici, j'apprends des trucs, alors ça se confirme.
Mais alors moi, j'étais passé complètement à côté, et moi aussi je dois cette redécouverte à un confrère qui a publié sur le site All About Jazz une rétrospective sur les trompettistes de Charlie Parker. Alors évidemment, il a commencé par... Il s'appelle Matt Lavell, il est aussi trompettiste. Et il vise évidemment Dizzy Gillespie ou Miles Davis, ou Chet Baker qui a joué aussi avec Bird. J'ai passé depuis le début de la semaine Howard McGee, Kenny Dorham, Fats Navarro. Et aujourd'hui, c'est le tour de Rolf Erichsen. Et il m'a réouvert les oreilles sur ce trompettiste qui est suédois. Et en fait, il a joué avec Bird à l'occasion d'une tournée en Suède en novembre 1950. Il avait déjà été repéré parce qu'il avait participé à des big bands de chefs américains qui venaient en Europe et qui prenaient quelques musiciens pour compléter l'effectif. Charlie Barnett ou Woody Herman, par exemple. Et alors lui, ce qui est intéressant, c'est que il est parti de Louis Armstrong, comme beaucoup de trompettistes, c'est en 1950, mais comme beaucoup de trompettistes, évidemment. Il y avait un soleil, on pouvait pas passer à côté. Mais il a très naturellement assimilé le bebop quand il a eu, tout jeune, à jouer aux côtés de Charlie Parker. Vous allez le voir sur Anthropologie. Moi, c'est en public. On entend d'ailleurs des applaudissements de Malmö. Et en novembre 1950, je le trouve extrêmement à l'aise à côté de Charlie Parker. Il fallait oser. Thank you. novembre 1950 au Amiralen Dance Hall de Malmö, ce trompettiste. Il avait 28 ans, il était à peine plus jeune que Charlie Parker, mais il était quand même tout jeune. Rolf Eriksson, Charlie Parker à l'alto et une section rythmique maison suédoise. Ça doit être sacrément impressionnant quand on découvre un ovni comme Charlie Parker et qu'on a monté sur une scène avec lui jours plus tard.
Il doit falloir être sacrément désinhibé.
Et en tout cas, l'autorité avec laquelle il joue. Merci donc aussitôt All About Jazz de nous avoir mis à nouveau en lumière un trompettiste comme Rolf Eriksson. Je vous le disais en ouverture d'émission, j'avais des invitations à vous proposer pour un concert qui a lieu samedi à l'Astrada de Marciac. C'est la chanteuse et pianiste Sarah McCoy. Eh bien, nos trois heureux gagnants sont Étienne Driollet, Jackie Ruda et Camille Ferrand, à qui je souhaite bien sûr un excellent concert samedi soir à Marciac avec Sarah McCoy.
It ain't easy to say goodbye. If you want to, baby, just cry. There's nothing gonna make sense all the time. But someday it'll be alright. The lights are down and the curtains drawn. The crowd is gone and the lights are off. I don't care about fame and I might be poor, but that line's too long and life's too short. Don't rush, baby, now catch your breath. And every time you try, try your best. 'Cause nothing's gonna work out every time, but well, someday it'll be alright.
Show's over, le show est fini, mais non, c'est samedi à 20h30 à l'Astrada de Marciac pour Sarah McCoy, voix et piano. Puis dans les concerts à ne pas rater, à Mantes-la-Jolie, le retour du Éole Factory Festival. Ben oui, c'est pas loin de, des usines d'un célèbre facteur d'instruments avant. Et samedi, à 20h, dans le cadre de ce festival EOL Factory Festival, c'est Joe Humisil, le saxophoniste résident à Paris maintenant, mais d'origine montréalaise, qui donnera un concert. C'est à 20h samedi, à Mantes-la-Jolie. Du côté de la Philharmonie, dans la grande salle Pierre Boulez, à Paris, deux concerts de suite, samedi, archi-complet. Par contre, il reste encore des places pour dimanche, à 19h. Pourquoi c'est déjà complet samedi? Ben parce que c'est Brad Meldo. Brad Meldo qui donne un concert en piano solo sur le répertoire des Beatles pour un week-end autour de la musique des Beatles à la Philharmonie. Donc, si vous êtes fan des uns ou de l'autre, précipitez-vous, il reste encore quelques places ce dimanche. Et puis, à Avignon, c'est pour les enfants, de samedi après-midi, reprise des Hajmimom, une petite histoire du jazz racontée aux enfants. Ce sont des rendez-vous très prisés du côté d'Avignon, organisés par l'association de l'Hajmi. Vous avez fait des concerts pour enfants ou pour jeunes publics déjà, Yves Rousseau, avec l'une de vos formations?
Oui, j'avais même écrit un programme, j'en ai écrit deux d'ailleurs, un autour de textes de Christian Bobin avec Jean-Rémy Guédon et Élise Caron, qui chantaient et qui jouaient la comédie magnifiquement bien, comme vous pouvez l'imaginer. Mmh. Voilà, puis un deuxième programme autour d'un texte de Pierre Etex. Pierre m'avait offert ce texte, et c'est Claudia, c'est ma fille qui l'avait créé, et Claudia Solal qui l'avait repris.
Mmh. Et moi, je me sens un peu enfant quand je suis installé au premier rang d'un concert où vous êtes à la contrebasse, parce que je dis, mais monsieur, pourquoi vous avez 5 cordes à votre contrebasse et les autres, ils en ont que 4?
Ah, oui, oui.
C'est quoi la réponse d'ailleurs, Yves Rousseau?
Oh là là, c'est, il faut que je fasse un peu différemment des autres, alors, hein, ça doit être ça.
Non, il y a quelques contrebassistes qui ont une cinquième corde. On va se quitter, Yves, avec un petit hommage. Je l'avais fait avant-hier, pour l'anniversaire des 40 ans de la disparition de Bill Evans, le 15 septembre 1980. Aujourd'hui, ça fait un an exactement qu'a disparu ce pianiste américain new-yorkais qui a été un pilier des clubs new-yorkais, qui s'appelle Harold Mabern. Et un album a été publié par le label Smoke, du club Smoke de Manhattan, où il a souvent joué. C'est un de ses derniers enregistrements, avec deux saxophonistes et un tromboniste. J'en me suis dit, tiens, ça va peut-être faire un écho pour les fragments d'Yves Rousseau. Vincent Herring, Eric Alexander, Steve Davis, John Weber à la basse, Joe Farnsworth à la batterie et bien sûr Harold Mabern au piano. Thank you. De véhémence chez Eric Alexander, le saxophoniste ténor du sextet de Harold Mabern dans The Lyrical Coleman. C'est signé Harold Mabern, c'est un de ses derniers enregistrements qui s'appelle Mabern Plays Mabern chez Smoke Recordings. Et le Coleman auquel il est fait hommage, c'est George Coleman. Et ni Ornette, ni Steve, qu'on écoutait tout à l'heure, Yves Rousseau. Yves Rousseau, concert de sortie du disque Fragment qu'on écoutait tout à l'heure.
Ouais, le vendredi 23 octobre au Pan Piper à 20h.
C'est à Paris.
C'est dans le 11e arrondissement, impasse Lamier.
Et maintenant que le Tour de France approche de sa fin, c'est vous qui allez faire votre Tour de France, on espère, avec votre sextet de Fragment.
Bien sûr, avec plaisir.
Merci Yves Rousseau.
Merci à vous.
On reste quelques instants avec Aaron Madère. Toujours Eric Alexander dans un solo enflammé. Bon, je croirais au smoke à Manhattan sur un soir où c'est encore possible. Je vous signale d'ailleurs que beaucoup de clubs new-yorkais en ce moment, comme le Village Vanguard, vous invitent, moyennant une entrée modique, à écouter et assister en vidéo à leur concert en direct. C'est quasiment tous les soirs. Si vous allez sur le site du Village Vanguard, vous allez le trouver. C'est quand même chic d'être chez soi, je sais pas, bon, au fin fond de l'Auvergne, et de se sentir au Village Vanguard. Vous pouvez prendre la boisson de votre choix en plus. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné durant cette émission. José Bernès, Emmanuel Dupuis, Gérard Chan, Emmanuel Lacaze, Fabien Flora et Catherine Prin-Legal. Demain, dans Open Jazz, ça sera le tour d'Antoine Pierre, le batteur belge, et son urbex électrique. Et je sens qu'on va aussi mélanger les sons acoustiques et électriques, Yves Rousseau. Merci d'avoir passé cette heure
merci
avec nous.
Merci à vous, merci beaucoup.
À réécouter sur francemusique.fr.